le grain de sable. Pensée globale. Agir local. Le grain de sable.
Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Grain de Sable sur 102.2 Radio Canu. Aujourd'hui, une émission consacrée aux ordonnances de 15 du Code du Travail avec nos invités. Donc Lucie, Bernard et Olivier, je vous propose de vous présenter. Donc, Lucie.
Bon, bah, je vais commencer. Bonjour à tous. Lucie Davy, je suis avocate en droit du travail à Lyon et j'ai une petite particularité, c'est d'appartenir au syndicat des avocats de France qui a une commission sociale dédiée à la défense du droit du travail des salariés. Et c'est un vrai engagement de notre part de travailler sur ces sujets. Je laisse la parole à Jérôme.
Olivier.
Bonjour, Olivier Minou, moi je suis militant CGT dans une entreprise de la chimie du sud de Lyon, Solvay. Moi je suis aussi un militant politique de lutte ouvrière. Voilà, donc effectivement, on pense que c'est important de venir discuter et puis de débattre sur ces ordonnances et puis surtout le mouvement en cours, quoi.
Et donc Bernard Boucher, moi j'appartiens à l'Union syndicale solidaire qui regroupe notamment les différents syndicats sud et les syndicats solidaires. Et évidemment avec la CGT et avec la FSU, on a été dans la rue ces derniers temps sur cette question de loi travail.
Et on y retournera.
Et on va y retourner sans doute. Et on va essayer ce soir de s'éclairer ensemble sur ces questions.
Juste pour revenir sur le syndicat des avocats de France, mais ça on le mettra dans le podcast de l'émission, donc vous pourrez trouver et sur le site de Radio Canu et sur le site d'Attaque. Il y a des décryptages et en vidéo et en texte qui sont vraiment, enfin il y a vraiment eu un gros boulot et c'est vraiment intéressant si vous voulez creuser le sujet de les lire.
Surtout qu'il y a déjà vous pouvez aller sur le site du syndicat des avocats de France et puis il y a aussi, on a créé cet été une chaîne YouTube qui s'appelle L'Arme du Droit et c'est vrai que sur cette chaîne vous pouvez trouver des vidéos de décryptage sur les ordonnances travail, mais ce sera pas que sur ces sujets-là, puisque c'est prévu d'avoir des vidéos aussi sur l'état d'urgence, en fait, tout un tas de sujets. Donc c'est une chaîne à suivre, bien évidemment.
Oui, parce qu'il y a le Code du travail, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de lois qui se précisent, et un petit peu toujours sur le même mode, c'est-à-dire qu'on a des objectifs affichés et des mesures dont les impacts sont généralement contraires, très paradoxaux.
Notamment, c'est vrai que sur les ordonnances travail, parce que quand on regarde le communiqué de presse qui a été fait et qui a été mis en ligne sur le site du ministère du Travail, c'est vrai qu'on est un peu effaré entre ce qui est présenté comme garantissant en fait des droits pour les salariés et puis qui sécurise les relations de travail et qui augmente en fait des possibilités de dialogue social. Et quand on étudie de près en fait ces ordonnances, et on voit qu'il y a vraiment un grand écart entre ce qui est dit et les véritables conséquences pour les salariés.
Je vous propose de lire le tout début d'un texte qui a été publié par Attaque France, un texte signé par Annie Coupé de Sud et de Dominique Plion d'Attaque. Je vais vous lire juste le début pour resituer un peu le contexte de ces lois, enfin de ces ordonnances. Emmanuel Macron dit vouloir libérer le travail par ses ordonnances et il n'y a pas de raison d'en douter. Mais dans sa vision du monde, la liberté du travail, c'est sa liquidité. Le travail doit être négociable à vue, achetable et jetable d'un clic de souris comme un titre financier. Microjobs en Allemagne, contrat zéro heure en Grande-Bretagne, plateforme de jobbing autoproclamée d'économie collaborative, figure ce rêve qu'il conviendrait de généraliser. Le fil roule de ces ordonnances est le travail jetable. La possibilité exorbitante offerte par la loi El Khomri de licencier en cas d'une simple baisse conjoncturelle du chiffre d'affaires ou même de la trésorerie aurait pu satisfaire les aspirations patronales à la flexibilité. Loin de là, le pouvoir de l'employeur de se séparer du salarié doit désormais être sans limite. Un petit peu plus loin dans le texte, il est dit « C'est une vision du travail très particulière que portent ces ordonnances et le patronat qui les a écrites. Un facteur de production abstrait anonyme qu'on achète en juste à temps, qu'on dirige pour que sa production dégage le taux de profit désiré par les actionnaires et qu'on jette dès que son coût affecte ce taux de profit. Bon, je n'irai pas plus loin dans la lecture de ce texte, mais je vous invite à le lire, je le trouve excellent. On pourrait y rajouter quelques mots-clés, hein, des tags, suite à l'apparition de ces 5 ordonnances. La hiérarchie des normes bouleversées, l'instabilité juridique inédite, du dumping social. On targue effectivement de dialogue social, mais en fait, c'est du dumping social qui est à l'œuvre. Modification de contrat sans protection des salariés, bref. C'est le retour à l'arbitraire patronal, comme au XIXe siècle. En fait, ces 5 ordonnances qui viennent de paraître sont un coup très très dur pour les droits des salariés. Et je pourrais dire peut-être, à titre personnel, que j'ai l'impression que finalement, aujourd'hui, on est dans la culpabilisation des personnes qui ont un emploi et on est dans la culpabilisation des personnes qui sont au chômage. C'est-à-dire que tout est mauvais. Et les salariés, de toute façon, sont simplement des jetables. Est-ce que ces lois, effectivement, ces nouvelles ordonnances, ne sont-elles pas plus encore assassines que les lois El Khomri ?
Je crois que c'est la suite des lois El Khomri. On est dans une logique de régression, et ces régressions de ces dernières années, mais qui ont commencé largement avant, qui sont accentuées sous Hollande avec Macron, Rebsamen et El Khomri, les 3 lois de régression sociale. Et on est aujourd'hui le travail se poursuit. Et hélas, si on bouge pas, c'est peut-être pas fini. Bon, aujourd'hui, ça touche toute une série de catégories et de points, mais il y a d'autres, y compris catégories de salariés, qui sont concernées par des attaques. On a entendu récemment que Macron voulait revenir sur tous les acquis, par exemple, du statut des cheminots. On a la question des fonctionnaires avec une action, on en parlera peut-être le 10 octobre. Enfin, en tout cas, on est sur une attaque absolument généralisée. Tu le disais tout de suite, c'est du dumping social qui, alors qu'on nous parle de dialogue. Il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de mensonges dans ce qui est raconté aujourd'hui. On nous dit que c'est pour faire réduire le chômage. Or, tout ce qui a été fait ces dernières années a accentué encore le chômage et la précarité. Tout ça, c'est du pipeau. Et puis, on y reviendra sans doute, mais on nous parle de dialogue social. Il n'y a pas de dialogue social possible dans des systèmes où on met en cause les contre-pouvoirs, ce qui est largement le cas aujourd'hui.
Et on y reviendra. Et sinon, cette production un peu acharnée de législatif, ça crée aussi une instabilité, en fait, une vraie incertitude pour tous les travailleurs. Et je notais aussi, par rapport à tout ce que tu disais, à propos notamment de la hiérarchie des normes, Madame Pénicaud qui a quand même dit, on clarifie ce qui est du champ de la loi et ce qui n'a pas lieu d'être défini dans la loi. C'est-à-dire qu'en fait, on enlève beaucoup de choses de la loi, en disant finalement qu'on protège, mais on dépouille en fait le véritable outil de protection qu'est la loi.
Alors, c'est vrai que ces ordonnances, d'abord elles ne viennent pas dans un ciel serein, ça fait des années que effectivement le droit du travail il est attaqué, il est remis en cause par les différents gouvernements, c'est une véritable guerre de classe quand même, qui est menée aux salariés dans leur ensemble, hein. Et cette guerre, au nom de l'emploi, on voit qu'effectivement, plus on libéralise, plus l'exploitation permet au patron d'exploiter, parce que c'est ça le fond, hein. Le chômage n'y baisse pas, et c'est la précarité, les bas salaires, c'est les difficultés pour le monde du travail, hein. On aurait des tas d'exemples à citer autour de nous, de gens qui ne s'en sortent même plus en travaillant, qui sont sous pression avec les cadences, les conditions de travail qui se dégradent de partout. Donc, la guerre que nous mène ce gouvernement, qui d'ailleurs agit sur ordre, hein, parce que ces lois, moi je travaille dans une entreprise de chimie, je veux dire, le DRH, il est en direct avec le ministère, la loi Rebsamen, c'est eux qui l'ont inspirée, ces lois-là, elles viennent directement du patronat, hein, c'est ce gouvernement, il est à son service. Et effectivement, nous en face, on n'aura pas d'autre solution que de se mettre en travers, de s'opposer. Bon, les manifestations du 12 et du 21, ça a permis de montrer qu'il y avait un certain nombre de travailleurs dans le pays qui acceptaient pas, qui baissaient pas la tête, qui n'étaient pas résignés, ben maintenant, il faut continuer à convaincre, à discuter, et puis retourner dans la rue et généraliser les arrêts de travail, parce qu'il n'y a que comme ça, effectivement, qu'on les arrêtera, en construisant un rapport de force suffisant.
Mais est-ce que l'objectif de ces ordonnances est justement de pas laisser ces rapports de force qui existaient avec les syndicats présents dans toutes les entreprises ou des délais syndicaux Donc est-ce qu'on n'attaque pas finalement, on ne veut juste surtout pas que le rapport de force puisse se faire?
On pourrait développer, donner des exemples, mais là, avec ces ordonnances, c'est une attaque sans précédent du syndicalisme. Et le syndicalisme en tant qu'organisation collective dans les entreprises. Je parlais tout à l'heure de contre-pouvoir, quoi. Ces dernières années, on a vu, avec Lucie et d'autres, on avait essayé de travailler un observatoire de la discrimination syndicale. On sait aujourd'hui que les syndicalistes sont très largement discriminés. Leur déroulement salarial est souvent bien moindre que les autres. Ils sont souvent l'objet de pressions extrêmement importantes. Là, on a les outils, les ordonnances permettent que les organisations syndicales, les syndicalistes, les organisations collectives soient effectivement remis en cause. Par exemple, avant, il n'était pas possible de conclure un accord sans que ce soit sous le label d'une organisation syndicale. Et on sait qu'il y en a un certain nombre qui signent assez facilement, on va dire. Mais c'était quand même un minimum de garde-fou, même si, évidemment, ça permettait... il y avait une série de débats autour des signatures d'accords, d'accord ou pas. Là, c'est fini, le monopole de négociation qui était lié au fait qu'on avait des interlocuteurs qui étaient un minimum formés, un minimum protégés... protéger des pressions des employeurs, pour protéger de la subordination sur leur activité syndicale, c'est terminé. Et c'est terminé pour une partie des accords, mais on voit bien vers où on va. La possibilité de référendum qui contourne les avis des représentants du personnel, la régression des droits. Bon, on verra aussi que sur la question des instances représentatives du personnel, on avait aujourd'hui des instances qui étaient en partie spécialisées, complémentaires. Je pense qu'on pourrait y revenir un peu tout à l'heure. Et tout ça, c'est terminé. On va mettre sous les mêmes personnes un poids extrêmement important. Oui, c'est une attaque sans précédent des organisations syndicales. Et à vrai dire, on a du mal à comprendre la timidité d'autres organisations syndicales aujourd'hui, quoi. Je ne vais pas entrer en polémique ce soir sur ces questions, mais quand même, la remise en cause est extrêmement forte. Tout ce qui est de l'ordre, par rapport à un pouvoir exorbitant déjà aujourd'hui des employeurs, tout ce qui est de l'ordre du contre-pouvoir, limité, très limité, est évidemment totalement remis. Enfin, en tout cas, ils vont chercher, ils donnent des outils aux employeurs, le gouvernement donne des outils aux employeurs pour lutter contre les syndicats, et notamment contre les syndicats qui bougent.
Et ceci de façon plutôt insidieuse, parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont claires sur la fusion, on y reviendra, la fusion des instances de représentatives du personnel. Mais si on prend les accords d'entreprise qui pourraient primer sur des accords de branche, on sait bien que dans une entreprise, on n'a pas le même rapport de force qu'au niveau d'une branche. Voilà, donc la négociation, parce qu'il parle de renforcement du dialogue social, on a des intitulés qui sont quand même assez fabuleux par rapport à la réalité. La négociation est privilégiée là où le déséquilibre de pouvoir est le plus fort.
C'est la possibilité de déroger à la loi. Hein, c'est-à-dire que... parce que la hiérarchie des normes, c'est un terme un petit peu compliqué. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus... Enfin, c'est même la destruction des normes. C'est-à-dire la destruction de la possibilité qu'une loi soit applicable à tout le monde, quoi. C'est ça la question. C'est comme si on disait le code de la route, on s'arrête au feu rouge, mais on peut à un endroit dire que les gens ils peuvent passer au feu. Enfin, personne. Enfin, voilà, il y a des lois, il y a des codes, il y a un certain nombre de règles où matière fiscale, on pourrait dire, oui, il y a les impôts, mais bon, c'est indicatif, on peut faire autrement, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est quand même assez hallucinant que les relations, les droits qui concernent le travail, les questions du salariat, du salarié, et les questions des salaires, des conditions de travail, des conditions d'hygiène, d'emploi, etc. Et tout ça, ben aujourd'hui syndicatif quelque part. Enfin, on va progressivement vers des lois qui n'en sont pas, quoi. Enfin, qui sont applicables dans certains cas, mais pas dans d'autres. Voilà. Et
de ce point de vue-là, on revient à une situation parce que le code du travail, je crois qu'il date de 1910. Et on revient effectivement à une situation d'avant 1910 où le travailleur il sera corvéable un peu plus à la merci de ce patronat, hein, ça c'est sûr. Et ce code du travail, il est que le reflet d'un rapport de force à différentes périodes. Aujourd'hui, ben, on voit que le patronat, avec ses gouvernements, ben, eux, ils se sentent suffisamment forts avec le chômage, avec un recul de la conscience de classe, hein, un recul de l'idée qu'on a des intérêts en commun. Et lui, il avance vite et il met en l'air un maximum de garanties qui nous protégeaient un peu. Après, on peut aussi dire que il n'a pas attendu des tas d'entreprises ou de patrons n'ont pas attendu les ordonnances ou les différentes lois pour de toute façon déjà donner des coups de canif. Je pense que les avocats justement ils peuvent en parler beaucoup plus parce que au prud'homme ou dans les tribunaux il y a beaucoup de litiges. Bon, il y avait encore cette possibilité d'ailleurs qui n'existera encore moins. Mais les patrons ils n'ont pas attendu. Mais ça, effectivement, ça va légiférer, ça va leur donner encore plus de force, plus de raison. Et pour s'opposer à ça, il n'y aura que la force collective, il n'y aura que la force collective du monde du travail, quoi, pour mettre un coup d'arrêt à cette régression, quoi, qui aujourd'hui, dans la conscience collective, va effectivement livrer les salariés à leur patron et va peut-être favoriser des comportements de plus en plus individuels aussi, parce que on va demain signer un contrat de travail unique, quoi, et puis avec des conditions uniques, chaque salarié, quoi.
En fait, ces ordonnances instituent fragilisent en fait à la fois les relations collectives à travers les syndicats et la force syndicale et les rapports de force qu'on pouvait avoir avec les syndicats, parce que quand il y a un rapport de force, il faut qu'il y ait quand même une forme d'équilibre de force, où on puisse, quand il y a complet déséquilibre, il n'y a pas de rapport de force. Mais déséquilibre aussi et fragilise aussi la relation individuelle du salarié à son employeur par le contrat, parce que le contrat, à tout moment, peut être modifié aujourd'hui avec ces ordonnances et les décrets qui vont s'appliquer. C'est ça qui, aujourd'hui, je pense, est une atteinte vraiment dangereuse et violente, parce qu'on atteint à la fois, on fragilise à la fois la relation collective et aussi la relation individuelle. Et c'est difficile pour un salarié.
Et aussi, comme le soulignait Olivier, il n'y a pas seulement l'affaiblissement des syndicats, mais également du pouvoir du juge et de l'accès à la justice pour le salarié.
Oui, par exemple, s'il y a des accords d'entreprise qui sont signés et qui modifient des clauses qui ont été négociées au départ par un salarié avec son employeur dans le cadre d'un contrat de travail individuel, cet accord s'appliquera automatiquement de fait au salarié, quand bien même il avait négocié, lui, des choses plus avantageuses avec son employeur. La conséquence, elle sera directe pour le salarié, c'est qu'il ne pourra pas contester la modification de son contrat de travail qui lui sera imposé. Et s'il refuse quand même la modification de son contrat de travail, il sera licencié par son employeur et les ordonnances prévoient que ce licenciement ne peut pas être contesté devant le conseil de prud'homme. Ça veut dire qu'on aura un licenciement qui sera automatiquement considéré comme un licenciement avec cause réelle et sérieuse. Donc on aura des accords qui pourront être signés finalement et validés sans les organisations syndicales, dans le cadre de référendums qui pourront être organisés selon des conditions différentes en fonction du nombre d'effectifs dans l'entreprise, mais à des conditions qui sont complètement hallucinant. Ça veut dire que, par exemple, sur une entreprise de 1000 salariés, si on organise un référendum et qu'il y a que 200 personnes qui se présentent et qui votent et qu'il y a 101 personnes qui valident l'accord, eh bien, il y aura 101 personnes qui auront validé un accord pour 4000 personnes, enfin 1000 personnes, c'est mon exemple du départ, et qui s'appliqueront directement aux salariés, à l'ensemble en fait, du collectif, sans finalement qu'une organisation syndicale ait pu intervenir, sans que ce soit la majorité réelle des salariés qui ait pu se positionner, et sans évidemment qu'il n'y ait aucune information ni consultation des instances représentatives du personnel. Et tout ça qui s'imposera directement aux salariés sans que, in fine, ils puissent avoir un accès au juge qui puisse effectivement dire si cet accord a été fondé, pas fondé, etc.
Donc il n'y a même aucun recours par rapport à une non-information
Il n'y aura aucun recours par rapport à une absence d'information, ce n'est même pas prévu en fait par les ordonnances. Enfin, je veux dire, dans ces cas-là, il n'y a pas d'information aux salariés dans le cadre d'un référendum, sur la situation de l'entreprise, les orientations stratégiques, aucune obligation d'information dans le cadre d'un accord d'entreprise signé par référendum.
Et on voit bien que sur la question des possibilités d'action, notamment en prud'homme, ça va être de plus en plus difficile. C'est déjà de plus en plus difficile, puisqu'il y a...
40% de moins.
40%, voilà.
Depuis la loi Macron.
Les évolutions de la loi, des différentes lois, El Khomri et autres, il y a un an. Mais... on pourrait aussi redire que le plafonnement des indemnités qui serait possible en cas de manquement de l'employeur, c'est une honte, quoi. C'est un déni de droit important, puisque un des principes fondamentaux, Lucie, tu compléteras éventuellement, mais c'est en justice, c'est que c'est la réparation intégrale des préjudices. Hein, c'est si
suite à une faute et
un acte illégal, la règle en démocratie, c'est normalement la réparation intégrale des préjudices. On dit non. Le juge ne pourra plus apprécier. Tu nous disais tout à l'heure qu'a priori, au niveau européen, on pourrait éventuellement avoir un appui au niveau juridique. Mais enfin, faut oser, quoi. Faut oser dire, il y a un principe, c'est la réparation, et puis là, c'est pas obligatoire.
C'est vrai que pour les salariés, ça limite vraiment la possibilité du recours au juge, parce que on est sur la limitation de l'indemnisation du préjudice. Alors de l'autre côté, le message, le communiqué de presse, c'est de dire oui, on limite, mais on augmente le montant des indemnités de licenciement qui seront données dans le cadre de la rupture d'un contrat de travail. Sauf que ce qui n'est pas dit, c'est que l'indemnité de licenciement pourra être prise en compte dans le montant qui sera plafonné, qui sera octroyé par le juge. Donc on donne d'une main, on reprend d'une autre. Et puis c'est vrai que concrètement, un salarié qui, ayant moins de 2 ans d'ancienneté, pourrait être indemnisé au tort de 1 mois sur des procédures qui peuvent durer jusqu'à 2 ans, 3 ans, voire 4 ans. Quel est l'intérêt final de saisir la justice aussi dans ces conditions et dans les conditions d'un recours déjà difficile au conseil de prud'homme?
Donc, dire qu'on compense alors qu'on n'est pas du tout sur les mêmes registres juridiques, dans un cas c'est un droit à une indemnité de licenciement, dans l'autre c'est une réparation suite à faute. Donc la loi là permet d'être protégé d'un acte illégal. C'est comme...
Ça veut dire que les employeurs ils auront connaissance dès le départ du risque, du montant que va leur coûter le licenciement d'un salarié. Donc ce sera très facile pour eux de provisionner aussi la somme éventuelle d'argent qui sera mis à leur charge par le conseil de prud'homme. Et donc et sur des montants qui sont faibles. C'est vrai que un mois de salaire pour une petite entreprise c'est un petit peu différent, mais pour une grosse entreprise, c'est pas grand chose. En tout cas c'est un risque à prendre, qui peut se prendre et qui est provisionné clairement. Donc ça facilitera évidemment les licenciements abusifs et pour des raisons qui ne sont pas du tout justifiées.
Puis il y a quelques autres dispositions qui sont complémentaires à tout ça. Par exemple, il ne sera plus nécessaire pour les employeurs de motiver un licenciement. Enfin, c'est quand même... Alors qu'aujourd'hui, c'était la lettre de licenciement, c'était la base de l'action possible. Aujourd'hui,
c'est la base du droit du salarié.
La base du droit du salarié. Enfin,
elle n'existe plus, cette lettre.
Non. Il n'est plus nécessaire de motiver un licenciement pour aller en prud'homme. Il va falloir demander à l'employeur. Et puis, il va pouvoir modifier éventuellement. Enfin,
il pourra effectivement, y compris, changer le motif. Cours de route, il n'est pas tout à fait conforme à ce qu'il veut.
C'est-à-dire que s'il a un motif et que ce motif est contesté, il pourra revenir présenter un autre et ça peut durer très très longtemps. Jusqu'à ce qu'il trouve le bon. Oui.
C'est vrai que, moi ce que j'ai envie de dire, c'est quand même que c'est un encouragement. On encourage les voyous, ce gouvernement encourage les patrons voyous. Et il y en a quand même un certain nombre, et notamment dans les grands groupes, parce que bon, c'est quand même, cette loi est quand même faite aussi pour eux, parce que y compris ces grands groupes, ils vont faire pression sur les prestataires, parce que ils vont leur dire, bah maintenant vous avez plus de possibilités de licencier, de réduire les salaires. Donc tout ça va contribuer à, effectivement à faire baisser baisser le coût du travail, et ça va donner plus de pouvoir à ces grands groupes industriels aujourd'hui qui quand même engrangent de l'argent et du pognon et n'embauchent pas, parce que le prétexte à l'embauche, je crois que personne n'y croit hein, quand même. Hein, c'est la tarte à la crème depuis des années, mais ces lois, elles sont faites pour exploiter plus, pour que les patrons, ils engrangent plus de profits, et c'est les plus gros qui vont gagner. Et on voit les grosses fortunes aujourd'hui qui se constituent, ça vient de l'argent de l'exploitation de millions de travailleurs, et cette loi, elle va renforcer ça. Oui, on n'aura nous qu'une réponse à donner, c'est dans la rue par les grèves, quoi. Et la mobilisation en cours, il faudra qu'elle s'amplifie de ce point de vue-là. On n'aura pas le choix, parce que de toute façon, en plus, ils vont continuer. Je veux dire, on a parlé tout à l'heure sur les tas de lois en vigueur ou qui vont tomber derrière. Oui, ils vont continuer. Et eux, la guerre, ils n'ont pas l'intention de l'arrêter, la guerre qu'ils nous mènent. Donc, on n'aura pas d'autre choix de convaincre. D'étendre et d'amplifier ce mouvement engagé le 12, le 21, puis là, il va y avoir le 10, il y a les routiers peut-être, on ne sait pas encore.
Oui, et d'expliquer comme on est en train de le faire et comme on va continuer à le faire après une pause musicale.
Alors on me parle aussi d'une sorte de folie de l'impôt révolutionnaire sous toutes ses formes. C'est la folie de la taxe, la commune, d'après ce que je comprends.
Oui, alors ces gens-là, qui n'ont que le mot de liberté, d'indépendance à la bouche, n'ont pu imaginer autre chose que d'accabler de taxes tout ce qui existe. Alors, qu'est-ce qui existait depuis le début de l'Empire? Eh bien, notamment, mon cher Laurent, vous le savez comme moi, les immenses travaux, nous en avons parlé du bâtiment, le baron Haussmann, mais également et surtout les chemins de fer. Alors, on a taxé, il y a actuellement 5 compagnies de chemins de fer, elles ont été taxées de la façon la plus excessive. Ce qu'ils auraient pu faire, il y a un impôt qui est très impopulaire, il faut bien le dire, c'est l'impôt aux portes des villes.
Ah oui, l'octroi.
Ce que nous appelons l'octroi. Bon, là, ils auraient peut-être pu supprimer l'octroi. Pas du tout, l'octroi a été maintenu. On a taxé absolument tout ce qui existe. Parce que, faute d'imagination, faute d'intuition et de volonté politique, qui n'ont absolument pas, vous savez, nous savons maintenant que c'est une bande de braillards. Je ne voudrais pas en rajouter, mais j'ai envie de dire de braillards pour lesquels la jactance tient lieu d'action, que cette bande-là n'a absolument rien pu trouver du point de vue économique.
Que l'on impose les très grandes richesses, ceux qui possèdent des châteaux, des palais, ceux dont la vie n'est faite d'allégresse, sans nul souci, ne travaillant jamais. Que l'on impose les archimillionnaires, mais que désormais on laisse à l'ouvrier intégralement l'argent de son salaire, pour qu'il n'y ait plus de misère à son foyer. Au lieu d'imposer le travailleur qui gagne le pain de ses enfants, imposez plutôt les noceurs qui gaspillent tant d'argent. Oh oui, la loi qu'il fallait faire, je vous le dis, messieurs du Parlement, c'est pas l'impôt sur les salaires, mais c'est l'impôt sur les feignants. Vous qui voulez qu'on repeuple la France, n'écrasez pas par de nouveaux impôts le travailleur, car alors sa conscience se révolterait contre tous ses bourreaux. Ce que le père peut gagner à l'usine, ça c'est sacré, messieurs, n'y touchez pas.
oui, votre impôt, c'est la peau de la famine. Et cette loi, Marianne, fiche-la en bas. Au lieu d'imposer le travailleur qui enrichit le gouvernement, imposez plutôt les noceurs et qu'ils paient pour les pauvres gens. Oh oui, la loi qu'il fallait faire, je vous le dis, messieurs du Parlement, c'est pas l'impôt sur les salaires, mais c'est l'impôt sur les feignants.
Donc nous écoutions l'impôt sur les feignants. Donc à bien comprendre, comme pas l'impôt sur les salaires. Et donc on reprend notre émission donc sur la casse du code du travail, donc avec Bernard de Sudrail, Lucie du syndicat des avocats de France et Olivier de la CGT. Et donc on reprend sur la question de la casse des instances représentatives du personnel. Alors sous prétexte justement de les renforcer, on va voir qu'on se retrouve dans une situation complètement inverse.
Alors, je vais juste dire que dans le rapport au président, là, par rapport à cette ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social, on dit qu'on parle de dialogue social simplifié et opérationnel. Ça veut tout dire.
Je suis dans un grand groupe où les patrons, ils sont accommodés des syndicats, parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est ce qu'ils veulent plus, c'est des militants syndicaux qui organisent les travailleurs, qui se battent contre les injustices, qui organisent, qui se défendent au quotidien dans les ateliers, les services, les bureaux. Et ils favorisent un peu dans ces ordonnances quand même, et la loi Rebsamen avant, et puis il y avait aussi sous Sarkozy, où il y avait eu, je ne sais plus comment elle s'appelait, cette loi-là. Je veux dire, ils favorisent le syndicat professionnel, le syndicat responsable, bon, responsable devant le patron, bien sûr, hein. Et ils ne veulent plus de délégués du terrain, de militants combatifs. Hein. Et ces lois, elles renforcent beaucoup ça. Elles vont donner naissance à tout un milieu de syndicalistes professionnels, responsables, attachés par des tas de choses aux patrons, qui sont redevables quand même. Bon, c'est déjà des choses qui existent. Hein. Bon, tout à l'heure, on parlait de certains syndicats qui ont joué le jeu ou qui disent rien, mais c'est déjà ça un peu. Hein. On veut favoriser un syndicalisme qui n'est plus lutte de classe, qui n'est plus combatif, qui va sur un terrain de négociation, de dialogue social, alors que le dialogue social, quand même, dans les entreprises, ça n'existe pas. C'est une invention des patrons. Hein, pour mieux nous avoir, quoi. Le seul rapport social qui existe, c'est quand il y a un rapport de force. Voilà, c'est quand les travailleurs, ils sont capables d'instaurer un rapport de force. Alors aujourd'hui, comme on recule de partout, le rapport de force, oui, il recule aussi, y compris dans les endroits où il y avait encore un rapport de force, où il y a encore un rapport de force. Le rapport de force, il se fait aussi de manière plus globale, hein, dans le monde du travail, quoi.
Alors peut-être qu'il faut revenir un petit peu sur l'histoire et se dire que comment les choses ont évolué. En gros, à la Libération, il y a eu la création des comités d'entreprise, des délégués du personnel et d'un comité hygiène-sécurité qui est devenu en 82-83 le comité d'hygiène-sécurité et conditions de travail. Il y a trois instances.
Ce qu'on appelle le CHSCT.
Le CHSCT, oui, le comité hygiène-sécurité et conditions de travail. Alors, il y avait trois instances qui étaient un peu spécialisées. Les délégués du personnel, c'est actuellement encore pour la question, en gros, des contrats de travail, les défenses individuelles, c'est une instance de proximité, c'est des collègues qui sont au contact de leurs collègues et qui, quand il y a une observation d'une loi, vont trouver l'employeur et se réunissent avec l'employeur tous les mois. Il y avait des comités hygiène, sécurité, conditions de travail, créés notamment par l'addition des comités hygiène, sécurité et des commissions conditions de travail des CE en 1983, instituées par les lois Auroux. Ça représentait quand même quelque chose d'intéressant, puisqu'il y avait une instance spécialisée pour traiter les questions de souffrance au travail, de pression au travail, de stress, de burn-out, etc. Tout ce dont on parle effectivement aujourd'hui.
Et les questions de sécurité aussi.
Et les questions de sécurité, oui.
Notamment quand on parle de l'industrie chimique ou des industries.
Oui, bien sûr. Les questions environnementales, avec tout un tas de droits relativement importants. Et il y a eu des rapports, notamment du Sénat, de l'Assemblée nationale, adoptés à l'unanimité sur le fait qu'il fallait, ces dernières années, il y avait une organisation qui était de dire qu'il faut renforcer les comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail pour traiter ces questions de pression au travail en conséquence des évolutions de ce qui se passe. Et puis, il y avait les comités d'entreprise. Les comités d'entreprise, alors, ils géraient les œuvres sociales, mais en même les activités sociales, les œuvres sociales, mais en même temps, ils avaient surtout des attributions économiques. Et ils regardaient surtout la question d'évolution de l'emploi, des finances, etc. Et tout. Et on a dit, tout ça, c'est fini. On met ça dans une même instance et on va avoir comité social... conseil social et économique. On a du mal à s'y faire.
C'est marrant parce que ça fait penser aux conseils économiques et sociaux qui n'ont qu'un avis consultatif et qui n'ont aucun pouvoir. Et on retrouve le même nom.
La question qui est posée aujourd'hui, c'est que les employeurs ne veulent plus avoir à traiter des questions individuelles des salariés. Donc la disparition des délégués du personnel, même si ça pourrait être traité dans l'instance unique, c'est une catastrophe pour tous les difficultés que rencontrent les collègues sur le terrain. Et puis surtout, on nous dit qu'il va y avoir une commission, etc. Il faut bien voir une chose, le comité hygiène, sécurité et conditions de travail, il avait la possibilité d'agir en justice.
Il avait des pouvoirs particuliers.
C'était un comité qui pouvait agir en justice. Par exemple, les CHSCT, les comités hygiène, sécurité et conditions de travail de la FNAC sont allés en justice pour contester une restructuration et ils ont obtenu la remise en cause de cette restructuration. Alors, avec les mobilisations, en complément des mobilisations, mais le droit aujourd'hui, c'est quelque chose, malgré tout, qui était important. C'est fini, puisque il va y avoir une commission qui va se mettre en place, mais une commission, c'est pas un comité. Alors, tout ça, c'est pas très connu du grand public, ça fait pas la une des médias, mais ce qu'il faut vraiment réfléchir, c'est que c'était des outils internes aux entreprises, pratiquement à toutes. Bon, les délégués du personnel, c'était à partir de 10, de 11 salariés dans une entreprise, les CE, les comités d'entreprise, les CHSCT à partir de 50, donc toutes les entreprises de plus de 50 avaient ces trois instances. Il y avait déjà eu Rebsamen qui avait donné la possibilité de faire une instance unique, mais une instance unique où ne disparaissaient pas les trois instances, alors qu'aujourd'hui, on a une disparition totale, quoi. La volonté de ce gouvernement est claire, et soutenue par les employeurs, c'est de ne plus permettre aux élus du personnel d'être en soutien des problèmes individuels plutôt traités par les délégués du personnel et de ne plus être embêtés sur les questions de santé et travail. Ou bien voir que c'est un enjeu important. 565 morts au travail, les chiffres d'Eurostat de novembre 2016, les derniers chiffres qu'on a sur une année, c'est plus de 500 morts par an. 100 000 burn-out, en gros, enfin les épuisements professionnels, le nombre de troubles musculo-squelettiques, les problèmes de dos, les problèmes de d'épaule, les problèmes de canal carpien, etc. et tout sont en augmentation constante, même s'ils ont modifié la loi, les cancers, etc. Toutes ces questions-là qui étaient en partie traitées par les comités hygiène, sécurité et conditions de travail qui avaient par exemple à leur disposition la possibilité d'expertise qui est très largement rabotée dans les lois puisque en gros on va demander que le financement soit pas seulement fait par l'employeur alors qu'il y était, etc. Tout ça est absolument catastrophique alors que on en parlait un peu pendant la coupure que ces lois sont des lois qui vont accentuer le malaise des salariés quand c'est absolument quelque chose d'établi. folie. Quand on a la trouille, quand on est dans une situation où on peut perdre son emploi du jour au lendemain, évidemment qu'en matière de santé, c'est pas du tout la même chose que quand on est dans une entreprise où tout va bien, où il n'y a pas de pression, etc., etc. et tout. Bon, il y a eu l'émission sur la 2, je crois que c'est hier soir, Clash Investigation sur les pratiques des entreprises. La ministre du Travail a beau dire qu'il ne s'agit pas de pratiques qui sont répandues. Bien sûr que si. Enfin, moi, je peux témoigner dans les permanences syndicales qu'on a à l'Union syndicale solidaire, donc au niveau interprofessionnel, que ces pratiques sont des pratiques absolument régulières. Enfin, une émission pour expliquer toutes les questions qu'on peut intervenir, et Lucie pour aussi témoigner de tout ce qu'elle rencontre et tout ce qui peut être défendu, notamment au niveau des prud'hommes.
Comme tu dis, il y a la question de la pression, la peur du licenciement, mais il y a aussi la disparition des CHSCT et de certaines de leurs prérogatives, la difficulté à alerter sur une configuration dans l'entreprise qui mettrait en danger les travailleurs aussi.
Ben, il y avait par exemple, pour les délégués du personnel, donc, qui est vraiment l'instance la plus proche des salariés, une possibilité qui était une possibilité d'un droit d'alerte sur les questions de discrimination, sur les questions de santé, sur les questions de harcèlement sexuel, de harcèlement moral, etc., etc. et tout. Cette disposition saute. Il n'y a plus cette possibilité. Le droit d'alerte, l'instance pourrait avoir en partie encore la possibilité de faire une alerte sur les questions de santé au travail, mais jusqu'à présent, le temps des délégués pour faire cette enquête était du temps supplémentaire. Là, on nous dit, non, c'est plus prévu, ça va être sur le temps minimum de leur mandat. Vous voyez, tout est pensé par le patronat aujourd'hui, parce que c'est ça dont il est question, hein, par les employeurs, par les patrons. Tout est pensé pour remettre en cause les quelques contre-pouvoirs qu'il pouvait y avoir face au contrat de travail, qui est un contrat de subordination. C'est-à-dire, quand on est au boulot, on n'est pas égal, et c'est la notion notamment de partenariat social, ça ne veut absolument rien dire. On ne peut être partenaire qu'en étant à minimum égaux. Enfin, sinon, on ne peut pas faire du partenariat dans des conditions de déséquilibre important. Le déséquilibre était déjà très fort aujourd'hui. Et là, avec ces ordonnances qui sont applicables là, hein, lundi, enfin dimanche, le premier, hein, un certain nombre de dispositions, certaines vont être complétées par des décrets. Il y a 80 décrets qui sont annoncés dans les 6 prochains mois.
Il semblait qu'elles devaient quand même être ratifiées par le Parlement.
Non. Enfin, oui, mais oui, ouais. Enfin, bon, oui. Non.
Suis-je trop naïve?
Non, mais elles sont applicables dès maintenant. C'est-à-dire que le principe des ordonnances, c'est on applique, et puis le Parlement, il va, comment dire, je ne sais pas comment, enfin, tu connais mieux que moi, Lucie, la procédure, il va ratifier, c'est
il
ça
va ratifier.
Mais
ouais, oui, il va ratifier. Hein. Ah bah elles y sont, de toute façon, parce que les ordonnances, le sujet en fait est conforme à la loi d'habilitation, il n'y a aucune difficulté pour que ce soit ratifié en fait. Ils ne vont pas contrôler le fond, ils vont contrôler la forme, et ils vont effectivement vérifier que le pouvoir qui a été donné par la loi d'habilitation au gouvernement de légiférer a été respecté, qu'ils sont restés dans les clous.
Ils sont dans le périmètre.
Voilà, qu'ils sont restés dans le périmètre, en fait. Donc, comme ils sont dans le périmètre, il n'y a aucune difficulté, ça va être ratifié sans souci. Alors après, comme disait Bernard, on va avoir des décrets d'application qui vont tomber un peu au fur et à mesure pour préciser en fait certaines choses. Parce que quand on regarde un peu ces ordonnances, elles ont été vraiment faites à la va-vite. Il y a des articles du Code du travail qui ne correspondent pas. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Et donc, il va y avoir des décrets d'application. Et c'est pour ça que le combat, en fait, il n'est pas terminé et qu'il faut continuer à se mobiliser. Parce qu'on n'a pas terminé, en fait, de voir ce qui va nous arriver. Ça peut encore être un peu modifié au fur et à mesure. Et on a encore le temps, en fait, de combattre ces ordonnances, notamment dans le délai qui est donné par les décrets d'application.
Et puis, bon, c'est vrai que le patronat, lui, il n'a déjà pas attendu que ce soit ratifié, parce que c'est déjà des pratiques qui se font. Et c'est ça qui est malheureux, c'est que ces pratiques, elles vont être maintenant renforcées, augmentées. Mais c'est déjà des choses qui existent, qui sont répandues dans des tas d'entreprises, dans des tas de secteurs. Alors on parlait de souffrance au travail, ben oui, ça génère beaucoup de souffrance. Et le meilleur moyen, c'est aussi l'organisation collective. Alors à travers les délégués, à travers les syndicats, de s'organiser pour résister à cette pression dans le monde du travail, qui est la course à la productivité, faire le boulot à moins, on licencie ton collègue, tu bosses, tu fais le boulot pour deux, pour trois, on le voit de partout. Moi, il y a un arrêt annuel sur l'usine, je veux dire, c'est des boîtes extérieures qui arrivent, qui font des 12-13 heures par jour. Ils ont du personnel le samedi et le dimanche, il n'y a plus de barrière aujourd'hui. Alors, bien sûr, avec le chômage, ils trouvent des salariés qui acceptent parce qu'ils ont besoin de travailler, mais c'est déjà le cas. Et ça, il n'y aura pas d'autre façon de combattre que de par la mobilisation, par la résistance collective au quotidien, et de réimposer effectivement d'autres droits, et puis que les patrons, on leur mette, nous, des barrières, parce que eux, ils n'arrêteront pas et ils se sentent forts et ils vont continuer à remettre nos droits collectifs en cause.
En fait, ces ordonnances fragilisent, on disait tout à l'heure, effectivement, la relation collective, la relation individuelle. Qu'en est-il ? Donc, en fait, on sait bien que ces ordonnances, on nous dit que ça va favoriser. Comme on permet de licencier plus facilement, ça va permettre d'embaucher plus facilement. On sait bien que c'est de la tarte à la crème, puisque de toute façon, aujourd'hui, il y a plein d'études qui sont sorties qui montrent que de toute façon, ça n'a jamais été le cas. Qu'en est-il aussi parce que en fait, on va rajouter la précarité déjà aux précaires. Et moi, je pense en particulier aux femmes, qui sont quand même en grande majorité déjà des travailleuses précaires. On va encore rajouter de la précarité à la précarité.
Dans cette loi, il y a effectivement plein sur les femmes qui auront. Je crois que c'est. J'ai pas tout lu, mais il y a effectivement sur les arrêts maternité, sur la prise en charge. Il y a tout un aspect effectivement qui va encore faire reculer le droit des femmes, je crois, dans ces ordonnances, malgré le discours.
Simplement, comme on rend encore le travail encore plus précaire, et qu'aujourd'hui déjà les femmes sont sur des temps partiels et des emplois précaires, je pense à toutes ces personnes qui travaillent, toutes ces femmes qui travaillent dans les grands groupes de supermarchés,
ou dans le nettoyage. Ça va précariser encore plus, et puis en plus on va arriver à un dumping social en fait de plus important, puisque l'avantage des accords de branche, c'était un peu de régler en fait et de donner un socle commun en fait à une activité de branche pour que l'ensemble des salariés d'une branche en fait puissent s'asseoir sur des mêmes droits en fait, voilà un socle commun. Le fait de pouvoir déroger de manière défavorable par des accords d'entreprise va permettre va engendrer forcément une précarisation, et on va aller vers des entreprises qui vont aller vers le moins-disant en fait de plus en plus, notamment sur les secteurs en fait les plus précarisés. Moi, je pense au nettoyage parce que c'est un domaine que je connais bien, où on est dans des domaines où il y a des appels d'offres. Donc, où des entreprises sous-traitantes vont répondre à des appels d'offres, évidemment, elles remportent l'appel d'offres quand elles vont facturer à leurs clients un montant moins important. Et ce qui va leur permettre, les accords d'entreprise vont leur permettre effectivement de facturer encore moins, puisqu'elles auront négocié, entre guillemets, des droits qui seront moins importants pour ces salariés. Donc on va avoir, avec ces accords d'entreprise, surtout dans ces domaines-là, un nivellement vraiment par le bas des droits des salariés. Donc et puis effectivement, dans ce cadre-là, ça concerne en majorité les femmes. Alors on vous dira de l'autre côté que, par exemple, sur les licenciements abusifs, le plafonnement en fait des indemnités s'applique pas au harcèlement moral, etc., etc., ou au harcèlement sexuel. Sauf que nous, on voit bien quand on pratique les choses devant le conseil de prud'homme, on sera toujours taxé en fait de mettre ça en avant pour pouvoir échapper finalement au plafonnement qui seront induits par le code du travail. Donc, il faudra finalement que les personnes qui voudront mettre en avant le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel, ce sera encore plus difficile à démontrer parce que de fait, on dira que l'intérêt, c'est simplement un intérêt financier.
Et puis plus difficile à démontrer aussi, parce que ce type d'entreprise sous-traitant, généralement, la représentation syndicale est assez faible.
Ah, mais bien sûr.
Et qu'avec la disparition de délégués du personnel et de syndicats représentants de proximité, il y aura personne pour aider aussi ces salariés à aller jusqu'au prud'homme.
Et puis on voit bien quand même, quand on regarde un peu ces ordonnances de travail dans leur globalité, parce qu'on n'a pas tout abordé, et c'est impossible parce que c'est tellement une attaque de toutes parts, qu'on est vraiment sur une refonte totale du code du travail. Et comme tu disais en début de séance, on est vraiment sur une nouvelle manière en fait d'appréhender le travail. Et je pense que ce qu'on connaissait avant, ça va complètement disparaître et on va aller vraiment vers un autre mode d'organisation du travail. Je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler, mais en tout cas, on va vraiment changer de manière de travailler. Enfin, ça ne va vraiment pas ressembler à ce qu'on connaît.
Et sans doute, ça aura aussi un impact sur le temps de travail, sur la notion même de temps de travail, puisqu'on peut négocier entreprise par entreprise. Finalement, qu'est-ce qui va empêcher aujourd'hui de casser, sur le plan national, finalement, la notion de temps de travail?
Ben, c'est la question de ce qu'on parlait sur la question des normes et de la loi, hein, puisque on a entendu parler là, il y a un an, deux ans, là, de l'affaire du référendum à Smart. Hein, on dit aux salariés, soit vous acceptez d'augmenter le temps de travail sans modification de salaire par un référendum, et puis on maintient le site ici pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas combien, soit on délocalise tout de suite, quoi. Ce qui n'était évidemment pas possible précédemment, puisque les règles sont claires, étaient claires dans le code du travail, ça va être évidemment quelque chose qui va être tout à fait possible. Et là, sur l'affaire de Smart, on voit bien que ce qui est compliqué sur le référendum, c'est que selon les catégories, par exemple, de personnel, les votes ne sont pas exactement les mêmes. On a vu des entreprises, par exemple, où il y a eu des référendums qui ont été faits sur un périmètre national, alors que ça concernait des périmètres tout à fait locaux. C'est-à-dire que c'est des possibilités d'imposer effectivement des contournements importants des lois. Donc là, on est effectivement totalement en difficulté, bien sûr. Enfin, voilà. Après, peut-être là, comme l'émission avance dans le temps...
comme on a dit, c'est pas fini, voilà.
Faut pas. Non, mais je crois que les questions, enfin peut-être qu'il faut dire quand même deux trois mots sur ce qu'il est quand même possible de faire. Bon, première chose, je crois qu'il faut qu'on continue à débattre de ces questions. Vous parlerez peut-être du meeting d'attaque à la Bourse du Travail mardi soir. Pour ce qui concerne les syndicats, l'Union syndicale solidaire, nous on est vraiment en réflexion sur la question de la convergence des luttes, c'est-à-dire que les attaques de tous côtés, il faut absolument qu'on arrive au niveau du mouvement social en général, les syndicats évidemment, mais aussi les associations, toutes les forces vives, quelque part, j'allais dire, de ce pays devraient se grouper pour faire une pression qu'il faudrait pouvoir développer de manière beaucoup plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'il y ait différentes organisations syndicales et autres, bon, c'est le fruit de... Enfin, c'est le résultat un peu de l'histoire. Mais il faut absolument, sur ces questions-là, qu'on arrête de faire un peu chacun de son côté. Bon, il y a eu les deux mouvements interprofessionnels, il y a eu aujourd'hui une manifestation des retraités, il y a quelque chose sur la fonction publique, le 10. Mais pour nous, la perspective, c'est clairement que il y a eu des manifestations politiques également dans la période. Nous, en tout cas, notre orientation, c'est clairement d'aller au-delà de tout ça. Puis la deuxième chose, c'est que il nous semble quand même que la question de la syndicalisation et du syndicalisme se pose. Oui, on est attaqué, mais J'allais dire qu'une partie quand même importante des travailleurs et des travailleuses aujourd'hui ne sont pas syndiqués et que, quelque part, la question du renforcement du syndicalisme se pose. Du syndicalisme par l'adhésion, évidemment, mais pas seulement. La possibilité de donner son avis sur ces questions, de participer à une réflexion, tout ça, quoi. Enfin, nous, on essaye de travailler notamment sur des secteurs qui sont peu syndiqués. Je pense aux précaires. Tu parlais du nettoyage, mais évidemment, mais tous les contrats précaires, tous les étudiants qui, par exemple, font des jobs dans des boîtes pourries de restauration collective, enfin de restauration rapide notamment. Voilà, il faut qu'on arrive à un moment donné à regrouper un peu nos forces, et c'est par des moyens supplémentaires que peuvent donner les salariés aux syndicats aujourd'hui.
Effectivement, hein, c'est un véritable dynamitage du code du travail, hein, c'est une attaque frontale, hein, donc c'est une seule politique, hein, anti-ouvrière, hein, qui nous tombe dessus, donc il faudra y répondre tous ensemble, hein. C'est pas chacun dans notre coin, hein, ces deux journées, ben, elles ont le mérite d'exister, mais il faudrait amplifier ce mouvement, le renforcer, et moi ce que je vois, c'est que c'est un bras de fer, hein, qui est commencé, voilà, et tous les salariés sont concernés, donc il faudra continuer à discuter, convaincre, hein, et puis entraîner un maximum de travailleurs à se mobiliser, hein, parce que aujourd'hui, ben, beaucoup ne croient pas qu'on puisse faire reculer le gouvernement, hein, alors que ben, on n'aura pas le choix. Hein, faudra qu'on fasse reculer le gouvernement et les patrons qui sont derrière, qui sont à la manœuvre, hein, parce que à la manœuvre, c'est ces grands groupes industriels, c'est ces entrepreneurs, enfin ces patrons du CAC 40 qui font la pluie et le beau temps. On n'aura pas d'autre choix de recréer un rapport de force, de construire une offensive générale du monde du travail, hein, comme il y a pu avoir en 36, hein, avec une grève générale et une explosion de colère, hein, ou en 68, hein, où c'est là aussi où les droits, on renforce nos droits, hein, c'est dans ces périodes-là. Hein, donc il faudra effectivement aller vers ces mouvements d'ensemble plus larges construire au-delà des différences. Hein, on a parlé de la journée du 10 des fonctionnaires. Je souhaite qu'il y ait une autre journée rapidement, hein, qu'on puisse encore se compter, qu'on puisse justement avoir des objectifs et un plan de bataille, parce que c'est ça qui manque aujourd'hui, un plan de bataille. Hein, les patrons, ils ont des plans, ils avancent, ils sont organisés. Nous, faut qu'on s'organise dans la bagarre, dans la lutte, pour rendre les coups, parce que personne ne les rendra à notre place, personne ne nous défendra. Il n'y aura pas de sauveur suprême, hein, et seule la force collective des travailleurs, par la grève, par les mouvements d'ampleur, fera peur au patronat, elle les fera reculer.
Donc la convergence, qu'on voit quand même les patrons sont pas forts, sont plutôt en concurrence, mais qu'ils y arrivent, donc nous c'est par la convergence.
Ils sont tous syndiqués, sur les ronds de l'entreprise, mais ils sont tous syndiqués. Hein.
Et on vous laisse avec le Canu Info.